Histoire des îles Marquises, de Akakayo Tehenua Enana, de Fenua Enata. Une série de 60 émissions conçues, réalisées et racontées par Jacques Jacopo Pello.
Chers amis des îles Marquises et du reste du monde, ka oha nui.
Et bienvenue dans cette quatrième émission,
édition 2023,
qui va nous faire revivre la première rencontre des Enata avec des étrangers en juillet 1595.
La dernière fois, nous avions vu comment, après s'être installés dans leur archipel, les hommes de la Terre des Hommes étaient restés à l'abri du monde pendant des siècles. Mais en 1595, la situation changea brusquement. Imaginez, vous êtes à Fatuiva, un matin de juillet de cette année-là. Et ce matin-là, la plage d'Omoa est couverte de monde. Les pêcheurs sont rentrés de la pêche au flambeau. Cette année, on ne sait pas trop pourquoi, les Aturé ou Etoué, variété de chinchard local, tarde à quitter les côtes. Pourtant, Taku'ua touche à sa fin et Huo va bientôt commencer. Août va remplacer juillet. Il avait beaucoup plu ces derniers temps et la rivière avait charrié beaucoup de débris dans la baie. La mer était sale et les petits poissons devaient y trouver de quoi se nourrir à volonté. Et puis, la rivière avait rapidement retrouvé sa clarté et l'on y voyait de nombreux enfants patauger en riant ce matin-là. Devant cette abondance, le Tau'a, grand prêtre inspiré, et le Haka'iki, chef absolu de la tribu des Hanainoa, avaient décidé d'organiser la dernière nuit de pêche de la saison. La semaine précédente, les femmes Kikino et les enfants avaient été cueillir des roseaux kakaho et avaient préparé des torches. D'autres avaient participé à la réparation des filets upena et pa'o. Pendant ce temps, les spécialistes tuhuka s'assuraient de l'étanchéité des pirogues, les cordes de bourre de coco tressées par d'autres femmes et la glu de l'arbre à pain récolté allaient servir au calfatage. Le Haka'iki possédait plus d'une soixantaine de pirogues. En échange de leur habileté à la pêche, il en prêtait quelques-unes à certains pêcheurs kikino qui n'avaient pas les moyens de s'en procurer. En échange, une grande partie des prises lui revenait. Les Hanaino aiment bien ces pêches au flambeau. Même si les pirogues sont tapu pour les femmes, en participant ainsi à la préparation de la pêche, elles sont certaines de pouvoir recevoir leur part de poisson. Ce matin donc, les paniers sont remplis de petits poissons. Et avec la popoï, tout le village va se régaler, mais pas avant d'avoir remonté les pirogues derrière les premiers cocotiers qui ombragent le rivage aux côtés des phares, hibiscus des mers. Soudain, le son prolongé et répété d'une conque de guerre putoka provoque l'interruption de l'activité générale. Comme un seul homme, tous tournent les yeux dans la direction d'où provient le souffle lugubre. En même temps qu'il repère le responsable de cette sonnerie sur Mototapu, la petite langue de rocher qui barre la baie côté sud, un spectacle inconnu s'offre à leurs yeux interloqués. Quatre silhouettes blanches se détachent sur l'horizon, elles semblent flotter sur les vagues et se rapprochent peu à peu de l'île, portées par l'alizé Tuatoka qui souffle du sud-est en cette saison fraîche, Tetai Mataiki. Entend-on de ci, de là. Qu'est-ce que c'est? La plus grande partie de ceux qui sont sur la plage observent en silence. Tout comme la foule des villageois qui descendent en courant, attirés par le son de la trompe marine. Face à l'inconnu, on se tait et on attend la réaction du Hakaiki et des Taua. Et Mauvaka nous ! Ce sont de grandes pirogues, entend-on soudain le Taua lissé à l'oreille du grand chef qui lui répond Ah, Mako ! Sans balancier. Les exclamations de surprise fusent alors autour d'eux. Quatre grosses pirogues à voile et sans balancier se rapprochent de l'île venant du sud-est. Que sont ces embarcations ? D'où viennent-elles ? Pourquoi semblent-elles se diriger vers l'île ? Elles sont encore loin, mais il faut se préparer. Le Hakaiki donne des ordres au chef des guerriers, les Toanu. Que tous les hommes se préparent avec leurs frondes et leurs lances. N'oubliez pas les pierres de fronde. Sur la plage, on redescend toutes les pirogues à la mer et on attend que celles venant sur les flots soient assez proches pour aller à leur rencontre. Le Taua se félicite d'avoir eu l'idée de cette pêche au flambeau la veille. Plus de 60 pirogues se tiennent ainsi à disposition. En temps normal, elles sont démontées, réparties en plusieurs lieux de la vallée sous la responsabilité de leurs gardiens. Seules, quelques petites pirogues teke'e, taillées d'un seul tenant et qui ne quittent jamais la plage, n'auraient pu transporter que quelques hommes au large. Avant de donner d'autres ordres, le Hakaiki proclame en public la clairvoyance de son Taua, preuve de la force de son mana auprès des divinités Etour, dont il écoute attentivement les conseils et qui lui avait inspiré cette ultime partie de pêche au flambeau. Au total, près de 70 pirogues sont maintenant à flot, chacune pouvant transporter au moins 6 ou 8 hommes. Le chef en a sélectionné une des plus grandes où il pourra mieux observer les embarcations intruses. Il y fait installer un tambour pahu qui l'aidera à communiquer avec les guerriers. Le Taua s'installera à ses côtés sur la plateforme arrière. Si ce dernier arbore sa coiffe de palme de cocotier tressé, signe de son rang, le chef que tous connaissent ne se distingue du commun que par son pagne hami de tapa blanc bien serré autour de ses reins. Sur son front, seul un bandeau du même tapa. Au lobe de son oreille droite, nul pendentif extravagant, mais là encore, seul un lambeau de tapa blanc, marque de son statut tapa. Tous les hommes ont apporté au moins deux lances tapa. Ils ont aussi avec eux leur front de maka. Mais au lieu de la porter autour de la tête, comme à l'habitude, à la façon d'un bandeau, le Hakaiki leur a demandé de les cacher au fond des pirogues, avec des paniers de ke'akiva, des pierres de fronde. En cas de danger, tout le matériel sera ainsi à portée de main. Les grandes pirogues se rapprochent. On en distingue clairement les différentes voiles, dont certaines semblent se replier. De grands tapas multicolores flottent en haut des mâts. Le Hakaiki donne alors l'ordre de ramer lentement et en silence dans leur direction. Il prend la tête de la troupe. Il connaît le courage de ses guerriers et il ne craint pas l'adversité. Il sait que ses tatouages le protègent. Bientôt, on entend les cris venant des grandes pirogues qui dépassent de plusieurs brassées le niveau de la mer. On y aperçoit des couleurs vives, en mouvement, du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Certains reflets brillants étonnent les hommes du chef qui décident alors de se rapprocher de la première pirogue arrivée, celle sur laquelle, pense-t-il, se trouve le chef des grandes pirogues. Ces pirogues à lui se rapprochent et des visages humains apparaissent sur le bordage des grandes embarcations. Ils sont souriants. Ils gesticulent. Ils parlent une langue inconnue, mais ils font signe de s'approcher. Tous les Enata se retournent vers leur chef, attendant ses consignes. Si les étrangers nous appellent, voyons comment ils sont, pense-t-il. Le Taua se penche vers lui pour l'écouter et autorise les occupants d'une pirogue à monter à bord en escaladant les cordages. Ce sont bien des humains sur la grande pirogue, mais ils sont presque blancs, très barbus et entièrement couverts de vêtements, même leurs pieds. Mais ils n'ont pas l'air agressifs
Un des Enata rend compte à son chef qui répond en laissant monter aussitôt à bord quelques autres piroguiers. Bientôt, une quarantaine d'Enata se trouvent ainsi sur une des grandes pirogues qui offre à leur regard aiguisé une foule de nouveautés. Comme un seul homme, il s'éparpille, monte dans la voilure, s'empare des haches et des baquets, provoquant les hurlements des étrangers. Soudain, des claquements inconnus sifflent à leurs oreilles et une fumée âcre les entoure. Un Enata tombe à la mer en criant. Son sang se répand dans les flots. Tous les autres sautent à l'eau, tandis que le Hakaiki hurle un ordre rapide qui provoque le grondement du tambour Pahu et le souffle des gongs de guerre. Certains guerriers se saisissent de leur rame Hoe, avec l'extrémité de laquelle ils frappent en cadence le fond des pirogues, remplissant l'air d'un sourd et sinistre grondement. Certains guerriers se saisissent de leurs lances, d'autres de leurs frondes. Les lances rebondissent sur la coque de la haute embarcation et tombent à la mer. Mais les pierres de fronde font mouche, grosses comme un œuf de Stern Kaveka. Chaque pierre a été sélectionnée sur la grève ou polie avec soin. Placée au centre du panier de la fronde, tressée, la pierre de fronde Kiva est un projectile mortel. C'est la rapidité du geste, longuement répété, ainsi que la quantité de projectiles et de lanceurs qui font son efficacité. À bord des grandes pirogues, les étrangers s'abritent comme ils peuvent. Ils ont de grands couteaux et des lances, mais ils ne s'en servent pas comme projectiles. Ils les placent sur un support, les pointent devant eux, et une grosse fumée en sort accompagnée d'un claquement rappelant le tonnerre. Ce sont des lances à feu. Malgré la pluie de pierres, les étrangers parviennent à faire tonner leurs lances à feu, et plusieurs Enata sentent une grande douleur et voient leur sang couler, sans voir de projectiles dans leurs blessures. Ils ne comprennent pas. Le Hakaiki fait gronder son tambour, les conques donnent alors le signal court et saccadé qui marque le repli des guerriers vers la plage d'Omo. Depuis les grandes pirogues, les coups de tonnerre continuent faisant jaillir l'eau non loin des pirogues déjà hors de portée. Puis ils cessent, remplacés par les hurlements des étrangers. Sur la plage, on relève une dizaine de blessés dont le chef et le Tawa viennent observer les blessures afin de comprendre ce qui s'est passé. Aucun doute, ces étrangers ont une arme inconnue et pour le moment,
il vaut mieux rester hors d'atteinte.
Le soir, le chef réunit quelques anciens, son Tawa et le chef des guerriers, pour étudier la situation du lendemain. Au petit matin, les quatre grandes pirogues sont toujours là. Le chef a fait cueillir des dizaines de cocos, certains verts, d'autres secs. Il a décidé d'aller en ambassade lui-même pour renouer avec ses étrangers. Il ignore tout de ces derniers et ne connaît que la tradition qu'il a pratiquée de nombreuses fois afin de faire la paix avec ses ennemis. Il demande qu'on lui coupe quelques jeunes palmes de cocotier auxquelles il fait attacher des bandelettes de tapas blanc qu'il fait dresser à l'avant et sur les flancs de sa pirogue de la veille. Puis, il fait placer les cocos verts dans une pirogue plus petite et les cocos secs dans une autre. Dans la sienne, il a demandé qu'on dépose aussi des régimes de bananes. Enfin, accompagné des deux embarcations, debout sur la plateforme de sa pirogue, il donne l'ordre de ramer lentement vers les grandes pirogues dont il ne quitte pas le pont des yeux. Il y voit encore beaucoup de couleurs vives s'agitant et criant. Lui, il balance doucement sa palme de droite à gauche et continue à progresser sur une mer d'huile. Quelqu'un crie quelque chose qu'il ne comprend pas. Il fait s'arrêter les pirogues et demande à ses hommes de montrer les fruits et les noix. Une clameur s'élève alors de la grande pirogue d'où l'on voit descendre deux embarcations. Sur la deuxième qui reste à distance, le chef reconnaît les lances à feu qui ont blessé ses hommes hier. La première embarcation se rapproche.
Les hommes qui s'y trouvent ne plongent pas leur rame dans l'eau, mais ils les poussent d'arrière en avant, à l'envers. Ils semblent être commandés par un chef à la tenue écarlate, dont la tête est couverte d'un chapeau étincelant sous le soleil. On voit à peine ses yeux derrière sa barbe et ses moustaches. Un très long couteau pend à son côté. Il s'adresse au Hakaiki. Sans le comprendre, ce dernier lui montre sa palme et ses fruits, tentant de lui faire comprendre qu'il ne veut pas la guerre. Les étrangers agrippent la première pirogue et s'emparent des cocos secs. Ils font de même avec les cocos verts et les bananes. Le Hakaiki ne bronche pas. Il patiente stoïquement que les embarcations aient rejoint leur point de départ et fait signe alors à ses hommes de retourner sur la plage. Il y restera lui-même jusqu'à ce que le soleil soit au zénith. En fin d'après-midi, Yaevatea, les grandes pirogues s'éloignent vers le nord. On ne reverra plus jamais les étrangers, mais on n'oubliera pas leurs lances à feu. Plus tard, on apprit qu'ils étaient passés par Tahuata, où ils avaient fait tonner des lances bien plus grosses encore et tué d'autres Enata. Peut-être les étrangers maîtrisent-ils aussi la foudre et le tonnerre? Avec leur peau si blanche, peut-être venaient-ils de la lune. J'entends déjà vos questions. Hey, Jacopo, où as-tu été chercher tout cela? Chers amis, cette histoire tragique, je ne l'ai pas inventée. Les événements que je viens de vous raconter m'ont été inspirés par la lecture du journal de bord de l'expédition espagnole
et du livre de Madame Annie Baer, marquise de la mer du Sud, publié au Vent des Îles en 2011 à Tahiti.
En résumé, voici comment les événements ont été vus du côté de l'envahisseur. Du 21 juillet au 5 août 1595, à la tête d'une flottille de 4 vaisseaux
et de 430 personnes,
l'Espagnol Alvaro de Mendaña de Neira et son pilote Pedro Fernández de Quirós s'arrêtent dans le groupe sud-est de l'archipel,
qu'ils nomment las Islas Marquesas de Mendoza, les îles Marquises de Mendoza, en l'honneur de son protecteur, Don García Hurtado de Mendoza, marquis de Cañete et vice-roi du Pérou.
Les Espagnols arrivent d'abord à Fatuiva, où 70 pirogues et 400 enata viennent à leur rencontre. Ils montent à bord, touchent à tout et à tous, leur présence devient vite envahissante
et les Espagnols font feu de leurs arquebuses.
Un homme est blessé et tombe à la mer. À la vue du sang, les enata soufflent dans leurs trompes marines, frappent le flanc des embarcations de leurs rames et sortent front des lances cachées au fond des pirogues qu'ils lancent sur les Espagnols. Ceux-ci ripostent et blessent une dizaine d'enata. Après s'être dispersés, ces derniers reviennent en brandissant du tapa blanc et offrent des noix de coco. Les jours suivants, les Espagnols reconnaissent Mohotani et Hivaoa et ils débarquent à Tahuata dans la baie de Vaitahu pour s'approvisionner en eau douce et en vivres.
Ils nomment cette baie Madre de Dios, Mère de Dieu, nom toujours porté par l'église de Vaitahu.
Là encore, les Enata deviennent envahissants et au lieu de fournir l'eau réclamée par geste, ils s'emparent des jarres et s'enfuient. Les coups de feu tirés laissent à nouveau des blessés et des morts sur place. Néanmoins, les Espagnols persistent. Une grand-messe est même célébrée le 28 juillet à Vaita.
Les Enata y assistent, à genoux, silencieux et attentifs à tout ce qu'ils voient faire aux Espagnols, et ils se montrent très pacifiques.
Mais après coup, de nouvelles escarmouches éclatent, faisant de nouvelles victimes. Finalement, comprenant leur faiblesse en armement, les Enata tentent par différents présents d'obtenir la paix. Un autre jour, des marins tuent 5 Enata, puis ils transportent les corps sur la plage. Pendant la nuit, les autres Enata les récupèrent.
Malgré ces violences, les Espagnols ont à plusieurs reprises des contacts amicaux à terre avec des femmes et des hommes marquisiens. Ils admirent la force, la santé et la beauté des Enata, hommes et femmes. Ils sont impressionnés par leurs tatouages, mais aussi par la qualité de leurs pirogues. C'est aussi à l'occasion de cette escale à Vaitahu que le pilote Quirós fait
la première description du fruit de l'arbre à pain, mais qui, plus tard, fera saliver de nombreuses générations de navigateurs.
Le 5 août, les Espagnols quittent l'archipel,
où ils laissent entre 30 et 70 victimes en 15 jours de présence dans l'archipel.
Seules les îles du Sud ont été repérées, le Nord ne le sera pas avant 1791. La prochaine fois, nous verrons comment, après 179 années d'oubli, les Enata verront à nouveau de grandes pirogues étrangères se profiler à l'horizon. Ce sera en 1774, avec le passage du capitaine James Cook.
Chers amis,
à bientôt pour la suite de cette histoire touchante et passionnante des îles Marquises. Rejoignez-moi sur ma page Facebook TEO et sur mon site internet teo.com.
Merci au groupe Kaveemoetai pour sa chanson Hawaiki,
qui est le nom ancestral du séjour des morts marquisiens. La chanson donne la parole aux esprits des défunts qui nous expliquent leur vie au fond de l'océan et nous exhortent à ne pas les oublier et à ne pas oublier non plus les traditions anciennes. Merci aussi à Rataro pour l'extrait de sa chanson Maeva Hina, qui est un chant d'accueil à Hina, déesse de la lune, arrivée sur terre en pirogue.
Si une question vous brûle les lèvres, n'hésitez pas à me contacter à mon adresse mail
kopo@mail.pf, kopo écrit K-O-P-O,
ou sur mon Vini 87 756 719. À bientôt, à Pai, au Oahu.
No te ati e nata.